cours de la question. D'où ça vient?
Qu'est-ce que ça va changer? Comment la science infuse?
Caroline Lachowski.
Bonjour, ravi de vous retrouver autour de notre table ronde mensuelle avec nos consoeurs et confrères de la presse scientifique venus avec quelques exemplaires de leur magazine pour vous les faire gagner jusque sur le continent, chers amis auditeurs. Nous sommes en direct avec Caroline Tourbe de Science et Vie. Bonjour Caroline.
Bonjour.
Mathieu Novak de Science et Avenir. Bonjour Mathieu.
Bonjour Caroline, bonjour à tous.
Mathias Germain de La Recherche. Bonjour Mathias.
Bonjour.
Et Philippe Hénarejos de Ciel et Espace. Bonjour Philippe.
Bonjour.
Au sommaire aujourd'hui, le pire, la collapsologie ou la nouvelle théorie de l'effondrement côtoie le meilleur, l'intelligence des plantes, les promesses de l'épigénétique et les plus belles histoires des hommes qui ont marché ou pas sur la Lune et qui rêvent d'y retourner. À suivre autour de la question comment la science infuse et se diffuse. Bienvenue. On commence, si vous le voulez bien, par rendre hommage à l'un de nos plus grands penseurs, Michel Serres, disparu samedi dernier à l'âge de 88 ans, philosophe et historien des sciences. Ce grand esprit pétillant, formidable humaniste à la curiosité intarissable, avait la particularité de rendre intelligent tous ceux qui l'écoutaient, penser le monde et ses transformations, notamment sur France Info, où il s'est amusé pendant 14 ans à faire le philosophe du dimanche.
L'effort que j'ai fait pendant ces 14 ans, c'est de prendre les choses avec un regard oblique. Pas un regard normal, mais un regard un peu décalé, un peu nouveau, un peu inattendu. Et c'est intéressant de dire ça, parce qu'on a une bonne définition de l'imbécilité. Qu'est-ce qu'un imbécile? C'est quelqu'un qui est prévisible, n'est-ce pas? Qui est prévisible. Ce qu'il dit, on peut le prévoir, vous voyez? Tandis qu'un homme intelligent, il vous étonne toujours, il prend un point de vue oblique. Et c'est ce que j'ai essayé de faire, et ça a été mon bonheur, de risquer des sujets nouveaux, mais en plus, d'avoir une sorte de point de vue inattendu.
Toujours inattendu, Michel Serres, il va nous manquer. Mathieu Novak, était philosophe des sciences, c'est pour ça qu'il était connu, grand passeur de sciences, mais il a commencé par être...
C'était un mathématicien avant tout, c'était un scientifique de formation, il a étudié les maths, et c'était aussi un fils de marinier, il a voulu faire mieux que son père, il a fait l'école navale, donc c'était en même temps un militaire, un scientifique et un mathématicien. Et puis, ce qui s'est passé, c'est qu'il a été traumatisé par Hiroshima, et là, il s'est dit, bon, il faut que je m'arrête. Il faut que je réfléchisse, parce qu'il avait ses casquettes, ses différentes casquettes. Il faut que je m'arrête pour essayer de comprendre le temps. Mais il avait cette solide formation de scientifique, de mathématicien, qui a fait que toute sa carrière, après, il a réussi, justement, comme il le dit, à rendre des choses intelligibles.
À nous rendre intelligents et à nous faire passer des choses. C'était un visionnaire aussi.
Oui, c'était un visionnaire et aussi c'était un penseur optimiste. C'est-à-dire qu'il voyait toujours le bon côté des choses. Il essayait toujours de tourner les choses pour voir comment on pouvait les tirer à notre profit. Et il avait ce côté positif toujours dans la façon dont il appréhendait les sciences.
Donc il appréhendait les sciences, il appréhendait l'humanité, mais aussi la nature toujours. Et puis effectivement, tous les changements, on a beaucoup parlé de sa petite poussette.
Hein, oui, alors
sur les nouvelles technologies, c'est quand t'es quand même déjà un vieux monsieur qui s'est beaucoup intéressé au numérique et pas pour en dire du mal, pas pour nous parler de ses dangers.
Non, il y voyait une opportunité, mais il a mis le numérique très haut parce que justement, ce qu'il raconte dans ce livre, c'est que c'est la troisième révolution après celle de l'écriture, après celle de l'imprimerie. Il y a le numérique, mais pas le numérique comme on le décrit, addictif, qui rembête, mais plutôt que comment... Qu'est-ce que va devenir l'humanité en marchant maintenant comme il prenait cette image de Saint-Denis qui marchait avec sa tête après avoir été décapité. Il disait que maintenant on a notre tête qui est à côté et donc comment on va faire pour juste accéder à ces informations, parce qu'on a accès à tout maintenant, et comment on va pouvoir transformer le monde de façon positive en ayant cet accès à l'information permanent.
Et en réseau, hein, puisque lui s'était beaucoup intéressé au réseau des arbres, au réseau numérique, Michel Serres, il savait vraiment transmettre tout ça. Il avait son accent gascon, il avait Mathias Germain.
Un passeur de science. Je relisais justement une petite interview qu'il avait accordée au magazine La Recherche en 2014, où il revenait un petit peu sur le fait que Mathieu le dit, c'était un scientifique de formation solide, on met la démonstration avant tout, mais il était capable de dire que finalement les sciences doivent se raconter, qu'il faut faire un récit, c'est pas seulement décrire les démonstrations. Il rendait aussi aussi du coup hommage à Jules Verne, à Camille Flammarion, qui pour lui ont été des précurseurs et qui ont permis de faire accéder à une grande partie de la population, de leur faire accéder à la science, aux découvertes et finalement ouais, au changement à venir.
C'était voilà. Un conteur aussi, Michel Serres, visionnaire.
Il se comparait volontiers à s'impassionner de Jules Verne et il se comparait à Passepartout. Il disait, je suis un peu le Passepartout de la philosophie.
Michel Serres, le Passepartout, qui nous laisse une œuvre remarquable. Nous rediffuserons d'ailleurs sur RFI la semaine prochaine l'entretien qu'il nous avait accordé, Les yeux dans les yeux. C'est à l'occasion de la parution de son ouvrage sur les yeux, justement, autour de la question comment voir et être vu dans l'œil de Michel Serres. Ce sera à suivre lundi prochain. Pour l'heure, on retourne sur la Lune, en cette année du 50e anniversaire du premier pas de l'homme sur la Lune. Ce sera avec vous, Philippe Hénarejo. Ciel et espace revient sur les histoires extraordinaires des hommes qui ont marché ou pas sur la Lune et qui rêvent d'y retourner. Petit rappel des faits.
We choose to go to the moon. We choose to go to the moon in this decade and do the other things. Not because they are easy, but because they are hard.
Columbia, Columbia, this is Houston, AOS, over.
That's one small step for man, one giant leap for mankind.
We're building the next chapter of American exploration. Returning to the moon to stay. So we can go beyond. To Mars, to expand what's possible.
Le porte-parole de la NASA aujourd'hui. Ouvrons tous les possibles et retournons sur la Lune. Philippe Hénarejo, vous consacrez le dossier de Ciel et Espace à toutes les histoires extraordinaires des hommes sur la Lune ou autour de la Lune.
Oui, ça c'était quand même il y a bientôt 50 ans. Donc on ne pouvait pas manquer ça.
Dans Ciel et Espace. Hein, ouais.
Voilà, c'est plus qu'un dossier, c'est un numéro spécial qui va rester d'ailleurs 3 mois en kiosque. Comme ça, les gens
il
pourront
en profiter.
Il va
couvrir tout l'anniversaire
voilà,
et tout l'été.
Absolument, d'autant que nous ne traitons pas dans ce dossier ce qui va se passer, puisque après tout nous sommes des journalistes, on s'occupe de ce qui s'est passé et des faits. Alors c'est des faits certes qui sont anciens, mais on consacre 54 pages je crois à... la mission Apollo 11 et à toutes celles qui ont suivi aussi, avec toutes les histoires que nous avons essayé d'exhumer, parce qu'on s'est rendu compte que 50 ans, c'est l'âge pour lequel un événement commence à rentrer à l'histoire quand même. Mm-hmm. Donc ceux qui l'ont vécu sont plutôt jeunes.
Il faut vite aller les
voilà,
rencontrer. Hein.
Et il y a beaucoup de gens qui vivent aujourd'hui qui ne l'ont pas vécu et à qui il faut le raconter encore, parce que certains ne savent pas, par exemple, qu'il y a 12 hommes qui ont marché sur la Lune. Mm-hmm. On connaît Neil Armstrong, certains connaissent peut-être Buzz Aldrin, le deuxième. Je mets au défi beaucoup d'auditeurs de citer le troisième déjà. Donc on raconte.
Vous rendez hommage au troisième. Comment s'appelle-t-il ? Il s'appelle.
Pete Conrad.
Ah voilà, qui a marché sur la Lune.
Voilà.
Et lui,
lui c'était un sacré pilote avec son copain. Ils étaient très copains, Alan Bean, lors de la mission à Apollo 12. D'ailleurs, Alan Bean, qui est mort il y a peu de temps, j'ai eu la chance de pouvoir l'interviewer avant sa mort. Donc j'avais ça sous le coude. Donc j'ai ressorti des extraits de ce qu'il me racontait. Donc sont les derniers témoignages des derniers témoins que nous publions dans Ciel et Espace.
Comment ils ont vécu ça, justement, tous ces témoins, mais qui ont été un peu oubliés. Parce qu'après, ils ont vécu quelque chose d'extraordinaire. Donc,
Oui, ils ont eu des fortunes diverses, on va dire. Mmh. Évidemment, la rockstar, c'était Neil Armstrong. Mmh. Et il a passé son temps, après être revenu de la Lune, à essayer de se cacher un petit peu, à essayer de retrouver une vie normale, parce que c'était quelqu'un qui avait un fort caractère, mais qui n'avait pas un ego surdimensionné, loin de là. Et donc, il ne voulait pas spécialement se mettre en avant. Et sainement, je dirais, il a essayé de... Il est redevenu professeur dans une université. Il a essayé de se fondre de nouveau dans la vie de tous les jours. Il n'y est pas forcément parvenu, parce que voilà, quand vous êtes le premier homme à avoir marché sur la Lune, qui est quand même un acte qu'on attend depuis des millénaires peut-être, c'est pas possible de se cacher. Mais voilà, c'est plein de petites histoires comme ça. On consacre évidemment une large place à la commémoration d'Apollo 11, donc la première mission, celle où Neil Armstrong et Buzz Aldrin ont marché sur la Lune. On raconte l'histoire minute par minute sur 18 pages. On a pris ce parti de faire un document un peu historique quand même là-dessus, pour qu'on sache vraiment ce ce qu'a été ce voyage et ce que les deux hommes ont fait pendant deux petites heures sur la Lune.
Ouais, c'est fou.
Mais après, il y en a eu d'autres, effectivement, qui les ont suivis. Et on raconte un peu ce qu'ils ont fait. On a fait des petites découvertes. Alors, il n'y a rien de secret dans tout ça, mais il y a des choses qui étaient vraiment passées sous silence.
Par exemple,
lors de la dernière mission Apollo 17, qui était en décembre 1972, on s'est rendu compte qu'il y avait un instrument qui avait été posé sur la Lune, qui était là pour essayer de détecter, devinez quoi, les ondes gravitationnelles.
Ah, déjà.
Avec une base qui aurait été... c'était une espèce de petite balance qui aurait vibré au passage d'une onde gravitationnelle. Les ondes gravitationnelles qui ont été découvertes en 2015, hein, uniquement, donc c'était compliqué. Quand Harrison Schmitt, l'astronaute qui est chargé de le déballer, l'installe, à Houston, on lui dit ça n'a pas l'air de marcher très bien, etc. Tapote un peu dessus. Alors, il se met un peu en colère parce que il dit, mais vous m'avez interdit de m'entraîner avec parce que vous aviez peur que je le casse. Résultat, le truc n'a pas l'air de marcher. Et maintenant, vous me demandez de taper dessus alors qu'il est très fragile. Il va falloir vous mettre d'accord. Donc, vous êtes sûr? Oui, vas-y, tape dessus. Et puis, il tape. En fait, l'instrument n'a pas été vérifié. Il y avait un défaut et il ne marchait pas. Donc, on n'a pas pu tenter la détection des ondes gravitationnelles. Alors, on s'est renseigné. Je me suis renseigné. Mm-hmm. Le degré de précision de ces instruments n'aurait pas permis de détecter les ondes gravitationnelles. Mais à l'époque, on ne savait pas quelle était l'ampleur de ces ondes gravitationnelles, donc il y avait un espoir. C'était en tout cas le premier essai d'avoir une détection incroyable en physique et peut-être d'avoir un prix Nobel dès 1972.
Bon, oui, ça c'est étonnant. Mais du coup, ça a peut-être servi pour les autres missions. Il valait mieux tester l'appareil avant de se retrouver sur la Lune.
Alors non, parce que c'était la dernière mission sur la Lune. Ouais. Mais effectivement, en général, les astronautes testaient les appareils avant, ils s'entraînaient avec. Mais là, les physiciens qui avaient voulu cet instrument avaient vraiment peur qu'il le casse en s'entraînant et ils ne voulaient pas en refaire un autre. Donc ils disaient non, notre instrument est très bien fait. Ça rappelle un peu l'histoire du télescope Hubble finalement, qui a été fait, qui n'a pas été vérifié. Donc finalement, on s'est aperçu une fois en orbite que l'optique n'était pas optimale.
Pas le droit à l'erreur dans l'espace. Vous racontez aussi l'histoire de ce photographe qui voulait voir la Terre entière depuis la Lune. Et puis vous parlez aussi de beaucoup d'autres missions Apollo où à chaque fois c'était quoi? Trop léger, trop lourd, trop...
En fait, c'est l'histoire de l'exploration d'un nouveau monde avec toute la part d'inconnu que ça recèle. À chaque mission, on apprend. Au début, Apollo 11, on apprend un petit peu à marcher. Apollo 12, on apprend à s'éloigner un petit peu. Il y a Alan Bean, par exemple, qui dit on avait des cartes, on devait aller voir tel et tel cratère. Mais vous savez, sur la Lune, il n'y a pas de panneau avec le nom des cratères.
Les
cartes
ne
ressemblaient pas du tout à ce qu'on voyait sur place. Donc, on n'était jamais sûr de l'endroit où on était. Vous avez les astronautes de la mission suivante d'Apollo 14 qui doivent faire une véritable randonnée. Ils doivent gravir une colline et parcourir 1,5 km à pied pour aller trouver un cratère qu'ils ne trouvent jamais. En fait, ils sont passés à 17 mètres du cratère, ils ne le voyaient pas parce qu'il y avait les ondulations du terrain, etc. Alors, on leur a beaucoup reproché. En fait, ils ont fait le job, mais ils découvraient. Ils étaient trompés par le fait, par exemple, que c'est tout bête à dire, mais que sur la Lune, il n'y a pas d'arbres, il n'y a pas de maison, il n'y a pas de voiture.
Il n'y a aucun repère.
Ça vous donne une échelle. Quand vous voyez des montagnes, que vous soyez dans les Pyrénées, dans les Alpes ou dans n'importe quel massif montagneux, il y a toujours quelque chose, un arbre qui vous donne l'échelle et qui vous permet d'apprécier la distance. Là, sur la Lune, tout se ressemble. Les petits cratères ressemblent aux moyens qui ressemblent aux gros. Donc, ils se sont un peu perdus comme ça. Il y a tout un tas d'histoires comme ça. Alors, les trois dernières missions sont formidables parce qu'eux, ils avaient en plus une voiture, le rover lunaire. Ils en ont fait des choses avec ce rover lunaire, mais c'est intarissable.
Pour en savoir plus, on va donc se plonger dans toutes ces histoires extraordinaires des hommes sur la Lune, c'est-à-dire dans ce numéro spécial de Ciel et Espace, qui va donc être en kiosque tout l'été, dont nous avons aussi quelques exemplaires à vous faire gagner, chers amis auditeurs. Je sais que depuis notre concours, vous êtes nombreux à vouloir viser la Lune. J'en profite pour saluer notre gagnant, d'ailleurs, Christian Gbaba, à Lomé, au Togo, qui a bien reçu sa lunette télescopique et qui nous en remercie. Et pour féliciter aussi, elle est la plus jeune de nos lauréates, c'est Rosena, écolière de 11 ans, qui nous a envoyé un très joli poème depuis Jacmel en Haïti. Allez, je ne résiste pas, je vous le fais partager. Lune de ma vie, Moi, je voudrais te parler, te dire ce que je pense. Tu es si loin de moi, mais je peux te voir là-haut, avec mon grand-père Sébastien, qui me raconte des histoires drôles. Je voudrais monter dans le ciel, te caresser et te chuchoter des secrets que tu ne connais pas. Et un jour, j'irai te voir dans ton univers. Bravo, Rosena. Spéciale dédicace d'Elton John, pour toi, tout de suite sur RFI. On écoute Rocketman, titre du morceau et du film biopic qui lui est consacré actuellement au cinéma.
She packed my bags last night, pre-flight. 0 hour, 9 a.m. And I'm gonna be high as a kite by then. I miss the earth so much. My wife, it's lonely out in space on such a timeless flight.
Rocketman, Elton John sur RFI, on redescend sur Terre autour de la question comment la science infuse et se diffuse. C'est un nouveau champ de recherche pas vraiment réjouissant qui s'ouvre autour de la collapsologie, la théorie de l'effondrement. Science et Vie consacre Caroline Tourbe sa une et son dossier à la théorie de l'effondrement et aux collapsologues comme Pablo Servigne qui en ont fait une discipline.
Quand on s'intéresse aux problèmes du monde, on tombe toujours sur le mot effondrement, que ce soit les populations d'oiseaux, d'insectes, les écosystèmes, la biosphère, ou même humainement, politiquement, des classes sociales, des régions, des régimes politiques, etc. Et en fait, prises ensemble, interreliées, toutes ces crises amènent la possibilité d'un effondrement systémique global, que ce soit notre société, mais ça peut être pire si on fait les mauvais choix. Ça peut même être un effondrement de notre espèce ou de la biosphère, de la majorité des espèces sur Terre. Alors toutes ces questions sont passionnantes d'un point de vue scientifique et sidérantes, renversantes, bouleversantes.
Bouleversant, sidérant, c'est le moins qu'on puisse dire. Vous avez choisi, Caroline Tourbe, de consacrer votre une et votre dossier à cette théorie de l'effondrement avec une question. Notre civilisation pourrait-elle disparaître? C'est pas vraiment gay.
Non, c'est pas vraiment gay, mais c'est extrêmement intéressant. Et puis, donc dans ce dossier qui a été réalisé par Vincent Noriega, on se pose la question de savoir si c'est possible de modéliser des sociétés. Et dans ce cas-là, si ces modélisations sont possibles, est-ce qu'on peut prédire, prévoir l'effondrement ou en tout cas la transformation d'un univers et d'un système que les scientifiques appellent socio-écologique. Tout ce qu'on entend beaucoup autour du best-seller de Pablo Servigne et de Raphaël Stevens, Comment tout peut s'effondrer, qui est un livre qui est très intéressant, pourrait porter à croire que la collapsologie est une science, par exemple, déjà établie, une discipline. Or, ça ne l'est pas.
Oui,
c'est un mot qui a été formé.
Pour étudier les sociétés du passé qui se sont plus ou moins effondrées, essayer de comprendre pourquoi.
C'est exactement. C'est un mot valise dans lequel on étudie l'effondrement dans toutes ses dimensions, aussi bien des problèmes de surpopulation que de réchauffement climatique, que de pollution, que de raréfaction des ressources. Donc, ce mot valise-là, qui n'est pas une discipline en soi, ça a quand même le mérite de mettre le doigt sur des recherches, des études transdisciplinaire de l'effondrement. Et de fait, de plus en plus de scientifiques s'y intéressent. Ils essayaient de comprendre quels sont les mécanismes de l'effondrement. Il y a des mathématiciens, des écologues, des climatologues. Mais il n'y a pas de définition universelle, en fait, de l'effondrement. Et ce mot effondrement, c'est aussi une sorte de piège. C'est-à-dire que souvent, quand on parle d'effondrement, c'est plutôt une transition. C'est-à-dire qu'on passe d'un état à un autre. L'exemple qu'on pourrait donner, c'est l'eau, par exemple, qui va changer de phase. Mais c'est valable pour des tas d'autres choses. Pour une population herbivore confrontée à un nouveau prédateur, qui va donc se transformer, évoluer, changer dans ses pratiques. Donc l'effondrement en soi, qui est un mot qui fait très peur et qui est très vendeur dans la société.
Absolument.
Dans laquelle
on est. Absolument, puis on pense aux sociétés mayas, aux pharaons, enfin on pense à toutes les civilisations anciennes qui ont disparu. Si elles se sont effondrées, et si nous effondrions.
Mais à la fois ce mot, donc c'est un mot réel, qui en effet revient dans de nombreuses études sur des civilisations qui ont disparu, mais en fait quand on se penche sur ces études-là, on s'aperçoit qu'elles n'ont pas forcément disparu. Elles se sont transformées typiquement sur les Mayas, ce que Vincent Noriega explique bien dans le dossier en ayant parlé avec des scientifiques sur le sujet, c'est qu'on ne peut pas dire qu'ils aient totalement disparu. Il continue à y avoir des millions de personnes qui véhiculent encore une tradition, une culture maya. Donc en fait, elle n'a pas disparu, elle s'est transformée. Et inversement, il existe des civilisations ou des systèmes socio-écologiques qui ne se sont pas effondrés. Les systèmes d'irrigation de Bali, par exemple, sur l'île de Bali, c'est ancestral. Le système pastoral au Burkina Faso, même chose, sont des choses qui ne sont pas effondrées. Donc il n'y a pas forcément l'obligation de voir un système croître cyclique et puis s'effondrer, pas du tout. Les études qui essayent de modéliser les raisons qui ont amené à l'effondrement ou à la transformation de civilisation réservent aussi des surprises assez importantes. Par exemple, vous citiez les Mayas, mais on peut aussi citer l'île de Pâques. Pendant très longtemps, on avait l'impression que c'était très simple comme explication. Il y avait une déforestation massive, trop rapide, un effondrement très rapide aussi de la civilisation. Et les dernières études qui ont été publiées montrent qu'il y a une autre hypothèse qui est qu'au contraire, ça a duré très longtemps, plus de 300 ans, et que ça a été très compensé par une organisation, une adaptation, une coopération entre les populations sur l'île de Pâques qui a permis en fait d'avoir une sorte d'atterrissage et pas du tout un effondrement. Voilà.
Donc finalement, ces études, alors on le précise bien, c'est pas une science, mais beaucoup de scientifiques et de chercheurs travaillent autour de ces questions en essayant de les modéliser, pour essayer de modéliser un peu ce qui va nous arriver ou pas. Mais donc ça peut aussi nous donner des pistes pour nous dire, voilà, d'autres sociétés ont fait comme ci ou comme ça.
Voilà, ouais, ça donne des pistes.
Ça donne des pistes.
Il y a un courant un peu un groupe de chercheurs qui cherchent ce qu'ils appellent des points d'intervention sensibles, c'est-à-dire vraiment d'avoir par de petites actions très ciblées la possibilité de faire tomber du bon côté ou de faire rebasculer l'évolution d'un système du côté qui serait préférable là pour l'humain, pour l'espèce humaine par exemple. Toute cette recherche des points d'intervention sensibles, c'est pas non plus partagé par tous les chercheurs. D'autres chercheurs disent non, il vaut mieux essayer de limiter les dégâts, ne plus essayer d'intervenir mais de limiter les dégâts.
Ça rejoint toutes les questions autour du changement climatique.
Exactement.
De l'atténuation, de l'adaptation
La grande question contemporaine est de savoir si on est en train de s'effondrer ou pas. C'est vrai qu'il y a beaucoup de signaux qui sont au rouge, mais encore une fois, c'est pas parce qu'il y avait des signaux qui étaient au rouge dans d'autres civilisations
que ça s'est produit ou
qu'elles se sont effondrées ou même qu'elles ont disparu. Elles se sont adaptées, elles se sont transformées, et c'est plutôt à ça que les chercheurs ou les scientifiques qui sont alertés et conscients des points de bascule des différents systèmes qui nous entourent appellent, plutôt qu'à une sorte de survivalisme global qui amènerait à vivre chacun dans sa grotte et à se taper dessus les uns sur les autres.
Non, c'est plutôt de l'intelligence collective.
Une sorte d'intelligence collective, ouais, en tout cas une façon de
conscience collective.
Une façon d'avoir conscience en effet de ce qui peut se passer et conscience que c'est pas qu'il n'y a pas de déterminisme là-dedans.
C'est pas mal de le rappeler. Pour en savoir plus justement, sans déterminisme, sur la théorie de l'effondrement et la collapsologie, dossier et verdict dans Science et Vie de ce mois de juin. Donc je vous rappelle, chers amis auditeurs, que nous avons quelques exemplaires à vous faire gagner. Allez, histoire de nous remonter le moral, on a choisi le morceau le plus gai de toute l'histoire du rock'n'roll. This is the end, my friend, Jim Morrison et les Doors sur RFI.
Autour de la question... Comment la science infuse? Caroline Lachowski.
This is the end, beautiful friend. This is the end, my only friend, the end. Oh.
the end of everything that stands, the end. No safety or surprise, the end. I'll never look into your eyes again. Can you picture what will be so limitless and free? Desperately in need of some stranger's hand in a desperate land.
Sur RFI The End. Mais non, ce n'est pas encore la fin pour nous les terriens qui vivons tout de même sans trop en avoir conscience sur la planète des arbres et des plantes et qui commençons tout juste à découvrir leur intelligence, l'intelligence des arbres et des plantes. Nouvelle révolution à la une de Science et Avenir et dans la voix de Dominique Le Glu.
Ne dites jamais que les végétaux sont des êtres végétatifs. Les plantes ont une efflorescence extraordinaire, une puissance de vie extraordinaire. Les plantes ont-elles le sens de la famille? Sont-elles manipulatrices? Ressentent-elles la douleur? Voire ont-elles une conscience? Et c'est là que les scientifiques ne sont effectivement pas tous d'accord. Il y a une réelle polémique. Les plantes sont maintenant au cœur de la pensée moderne. Les plantes vont-elles nous sauver à l'heure où il va falloir nourrir 9 milliards, voire 10 milliards d'êtres humains?
Mathieu Novak, beaucoup de questions, beaucoup de nouvelles pistes de recherche autour de cette intelligence des arbres et des plantes à laquelle vous consacrez la une et le dossier de Science et Avenir.
Oui, c'est quelque chose d'assez étonnant parce que il y a effectivement, comme on vient de l'entendre, une sorte de combat parmi les scientifiques. Est-ce que c'est vraiment un sujet de recherche ou pas? Il y a au début du XXe siècle, il y avait le botaniste indien Bose qui disait que les plantes ont un système nerveux. Il a été extrêmement attaqué. Et finalement, qu'est-ce qui s'est passé au XXe siècle? Eh ben, d'un côté, on a travaillé sur la génétique, d'un autre côté, on a travaillé sur l'agronomie, mais on s'est jamais vraiment posé la question. Qu'est-ce qu'il y a dans ces plantes? Comment elles fonctionnent vraiment?
Qu'est-ce qu'elles ressentent avec toute la difficulté autour de ces termes?
Et c'est maintenant qu'on a des scientifiques qui ont étudié les animaux, qui sont revenus sur les végétaux, qui ont appliqué les mêmes méthodes et qui ont commencé à se poser des questions, jusqu'à fonder ce terme de neurobiologie végétale, qui reste extrêmement contesté, discuté. Mais on s'est aperçu que finalement, les plantes, elles savent faire différemment, mais à peu près la même chose que font tous les animaux. La différence, c'est que chez les animaux, on a des organes spécialisés pour chaque fonction, et qu'alors que chez les plantes, tout semble distribué de façon qui reste encore très très mystérieuse.
Oui, c'est ça, c'est vraiment, on a l'impression qu'on a entre guillemets découvert que les animaux étaient dotés de beaucoup de capacités. Aujourd'hui, on se tourne vers les plantes et les arbres, parce que c'est quoi? C'est ce règne végétal, c'est une autre manière d'habiter la Terre, d'être vivant, d'être conscient, peut-être pas quand même.
La conscience, les plantes ont une conscience, elles ont une conscience de soi, ce qu'on appelle une proprioception. Mmh. C'est-à-dire qu'on a par exemple montré que si vous mettez une plante à l'horizontale, elle va se redresser. Donc elle a conscience d'être à l'horizontale et la courbure va s'adapter. Petit à petit, elle va se redresser. Une fois qu'elle sera verticale, elle va pousser verticalement. Après, sur l'intelligence, alors ça, c'est le problème, c'est que c'est des termes qu'on utilise pour parler des humains. Mais finalement, qu'est-ce que c'est? La véritable définition de l'intelligence, c'est de comprendre, d'appréhender un problème et de le résoudre. Et ça, la plante, elle est tout à fait capable de faire ça.
Et de s'adapter.
Et de s'adapter.
Au combien à tous les environnements.
À tous les environnements. Et on a des. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est que finalement, est-ce qu'elle a des sens? On voit que tout ce qui est vu, touché, odorat, oui, goût, c'est encore assez discuté. Mais finalement, tout ça, elle est capable
le goût,
de.
Le goût d'une plante.
Le goût du plante. Alors, oui, alors le goût d'une plante.
On le sent, le goût de la plante.
Les plantes ont plutôt, surtout, travaillent énormément avec ce qu'on pourrait dire l'équivalent de l'odorat, c'est-à-dire des plantes odorantes. Elle est. Et par exemple, les plantes sont capables d'attirer les pollinisateurs en émettant des substances odorantes. Et pareil, elle est capable, on voit ça par exemple chez la sauge ou l'acacia, d'envoyer des molécules quand elles se font manger. une molécule pour avertir une autre.
Elle communique entre elles, elle communique les dangers aux autres plantes.
Alors, à quoi ça sert? Parce qu'une plante, elle ne peut pas s'enfuir. Mais si, elle peut quand même se défendre. C'est-à-dire qu'il y a ce mécanisme qu'on a découvert, qu'elles extraitent certaines substances, dont une en particulier qui s'appelle l'acide jasmonique, qui, quand il est libéré, il rend amère la plante.
Ah, donc elle peut se rendre immangeable.
Alors voilà, alors ça marche pour les chenilles, mais ça marche aussi par exemple pour les bovins. Quand ils broutent l'herbe, eh ben les brins d'herbe émettent cette substance. Du coup, l'herbe devient amère et la vache va brouter un peu plus loin. Ce qui fait qu'en fait, elles peuvent se faire brouter, mais elles partagent, elles mutualisent un peu le risque.
C'est fascinant complètement cette intelligence, avec des guillemets, des plantes, d'autant plus aujourd'hui, on en parle à l'instant, en pleine crise écologique. Qu'est-ce que pourraient nous apprendre ces autres formes d'intelligence?
Ben, disons que ce qu'on se rend compte, c'est qu'on n'a pas vécu forcément en intelligence avec les plantes. C'est en développant une agronomie productiviste à outrance, aujourd'hui on se penche vers cette intelligence pour voir comment est-ce que finalement elle pourrait nous profiter aussi en mettant en œuvre des pratiques de culture durable. Alors il y a je vous donne un exemple qui est le plus connu, c'est la culture de ce qu'on appelle les trois sœurs qui se pratique largement en Amérique du Sud. C'est on pratique en même temps la culture de la courge, du maïs et du haricot. Pourquoi ? Parce que la courge, elle couvre le sol. Du coup, ça empêche les mauvaises herbes de pousser. Le maïs, il pousse en hauteur, il protège du soleil. Et le haricot, avec tout ça, il capte l'azote de l'air et il va pouvoir redistribuer aux deux autres. Donc on arrive à associer des plantes qui ont chacune leur capacité, qui répondent chacune à une problématique de l'environnement différemment. Et on peut les associer et ça marche très très bien. Et on arrive à faire des cultures extrêmement efficaces, extrêmement rentables sur des petites surfaces.
S'inspirer de l'ingéniosité des plantes. Pour en savoir plus sur cette ingéniosité, sur cette intelligence des arbres et des plantes, dossier complet à lire dans Sciences et Avenir, dont nous avons, on vous le rappelle, quelques exemplaires à vous faire gagner, amis auditeurs. Et en attendant, on vous propose de planter des tomates avec Oldelaf sur RFI.
Soyons sérieux, est-il besoin que l'on se batte comme des furieux à coups de poing contre des battes, où l'on se pierre comme
des tomates avec Oldelaf sur RFI. Autour de la question, comment la science infuse et se diffuse dans la recherche, cette semaine, Mathias Germain, vous consacrez la une et le dossier à l'épigénétique, l'étude des mécanismes, en gros, qui peuvent bloquer ou avantager l'expression de nos gènes. Sachant de recherche qui suscite un intérêt grandissant, nous allons découvrir pourquoi et comment, juste après avoir écouté un court extrait de la leçon inaugurale d'Edith Hurd, titulaire de la chaire épigénétique et mémoire cellulaire au Collège de France.
Avant de décrire ce nouveau champ de recherche, commençons par rappeler la découverte, au milieu du siècle dernier, de cette réalité extraordinaire. Les gènes sont portés par la molécule d'ADN, et par celle-ci seulement. Cette information détermine, code les protéines, qui sont des molécules essentielles pour assurer les fonctions nécessaires à la vie. C'est ainsi que la myriade de cellules composant le corps humain possède toute la même séquence de 3 milliards de nucléotides à quelques très rares variations près. La question revient alors à se demander comment, au sein d'une cellule, seuls certains gènes sont exprimés et par quel mécanisme la cellule établit ce choix.
Question ouverte donc par la généticienne Edith Hurd, professeure au Collège de France, que vous avez interviewée dans ce dossier de la recherche, Mathias Germain, épigénétique, les nouvelles dimensions du génome.
Oui, les nouvelles dimensions du génome, parce que effectivement, il est question d'aspects très dimensionnels, en fait, déjà. Éditeur de l'a évoqué, donc la longue séquence d'ADN, pour donner un petit ordre de grandeur, on estime qu'elle fait à peu près 2 mètres de long, et elle est contenue dans le noyau d'une cellule. Le noyau d'une cellule, c'est une petite sphère d'un diamètre à peu près d'une dizaine de micromètres, à peu près. Donc, pour faire une comparaison, en ce moment, il y a Roland-Garros, je vais prendre une balle de tennis, c'est comme si on mettait une longue corde de plus de 20 mètres de long, à peu près, et qu'on essayait de la faire rentrer dans cette balle,
dans
de, tennis.
Balle de tennis.
Donc effectivement, il faut l'entortiller, il faut l'enrouler, Donc il est bien question de dimension. Et ce que raconte effectivement ce qu'a découvert, ce qu'ont découvert les biologistes, c'est que cet ADN est enroulé autour d'un certain, on va dire, de bobines. En fait, ce sont des complexes de protéines qu'on appelle des histones. Et en fonction de cet état compacté ou plus ou moins décompacté de l'ADN, enroulé ou désenroulé, les gènes peuvent être finalement décodés pour pouvoir fabriquer les fameuses protéines. Et l'épigénétique, finalement, c'est ce champ qui essaye de comprendre les mécanismes qui font que tout à coup, l'ADN est plus ou moins bien enroulé.
En fait, et quand il est plus ou moins bien enroulé, ça peut être positif comme négatif. C'est-à-dire que ça peut générer en maladie, ou ça peut au contraire être intéressant et empêcher des gènes de s'exprimer.
Alors même, commençons d'abord tout simplement, un organisme, éditeur le disait dans l'extrait, toutes les cellules de notre organisme ont exactement le même patrimoine génétique. Or, un neurone ne ressemble pas du tout à une cellule de la peau ou à une cellule osseuse. En fait, chacune de ces cellules dans un tissu, finalement, utilise un certain nombre de gènes qui correspond à sa fonction.
Ah, pour devenir neurone,
voilà,
ou pour
c'est
devenir
comme si chaque cellule avait une immense bibliothèque à sa disposition, mais finalement, elle restreignait un petit peu le choix, l'utilisation d'un certain nombre de livres pour pouvoir... Et justement, ce choix se fait par des marques épigénétiques, par des molécules qui viennent, on va dire, se fixer sur les séquences ADN, donc sur les bases de l'ADN qui constituent la longue chaîne de cette longue molécule qui porte le patrimoine génétique, mais aussi sur les molécules dont j'ai parlé, les fameuses histones, ces petites bobines. Ça fait que ces marques épigénétiques, ces molécules, alors on peut rentrer un peu dans la chimie, soit il y a la méthylation, c'est un atome de carbone et 3 atomes d'hydrogène par exemple, si ça se fixe sur l'ADN, ça va à certains endroits favoriser l'expression des gènes, et à un autre endroit ça va au contraire inhiber l'expression de ce gène, donc empêcher la fabrication des protéines.
Et ce qu'on cherche à comprendre, l'éditeur, c'est pourquoi il y a l'inhibition ou il n'y a pas l'inhibition de certains gènes, c'est ça ?
C'est ça, elle cherche à comprendre comment ça fonctionne sur le plan vraiment moléculaire. Et ils s'aperçoivent que c'est extrêmement complexe, et surtout, ils se sont aussi rendus compte, ces phénomènes, ces marques épigénétiques se transmettent de cellule à cellule. Effectivement, une cellule de peau, une fois qu'elle se divise, elle va toujours donner des cellules de peau. Donc, du coup, on maintient l'information. C'est une forme de mémoire cellulaire. Ça, c'est valable pour, un niveau purement au niveau de la cellule. Après, on peut s'intéresser à ces mécanismes-là au niveau carrément de l'organisme. On a tous en tête l'exemple des abeilles. Les abeilles ont toutes le même patrimoine génétique. Quand la reine des abeilles produit ses larves, elles ont toutes le même patrimoine génétique. Sauf qu'il y en a certaines qui vont donner des ouvrières et quelques-unes d'entre elles qui vont devenir des reines. Comment ça se fait ? On sait qu'il y a des facteurs extérieurs, notamment alimentaires, la fameuse gelée royale. On sait que les larves qui sont nourries avec cette gelée royale vont devenir des reines. Et d'un certain nombre de chercheurs donc se sont essayés de trouver quelles étaient les molécules impliquées dedans qui font que ils ont découvert que la gelée royale agissait comme un inhibiteur de la méthylation, donc ces marques de méthyle qui viennent se poser sur l'ADN, et ça provoque un certain nombre de différences énormes le long de la séquence ADN,
et ça donne un autre
organisme. Il y a des chercheurs ont montré que une larve ouvrière une larve de reine, il y avait une différence de méthylation à peu près au niveau de plus de 560 gènes. Donc c'est dire que du coup ça change complètement l'accès à cette bibliothèque d'informations.
D'où l'importance de cette épigénétique, l'importance de comprendre comment ça marche pour plein de raisons, les meilleurs comme les pires d'ailleurs. Hein, ça
alors peut être les pires, effectivement, on sait que dans le domaine du cancer, on sait que les cellules cancéreuses sont des cellules qui se mettent un peu à faire, pour dire simplement un peu n'importe quoi, qui changent le programme pour lequel elles étaient prévues. On sait qu'il y a donc des mutations. Donc là, quand on parle de mutation, c'est vraiment un changement au niveau de la séquence ADN. Or là, l'épigénétique, il n'y a pas de changement dans la séquence ADN. C'est simplement des molécules qui viennent se poser dessus
donc
et qui changent l'expression.
On peut moins jouer les apprentis sorciers avec l'épigénétique qu'avec la génétique.
Alors, on peut moins jouer, en tout cas, si on peut jouer, je pense, aux apprentis sorciers, mais le patrimoine génétique est toujours là. C'est-à-dire que si on efface ces marques épigénétiques, tout à coup, la cellule retrouve l'accès au gène qui est inhibé ou au contraire qui est surexprimé. Donc, c'est vraiment cette modulation qui fait la fascination pour l'épigénétique, parce que du coup, on se dit, alors si ça se transmet de cellule à cellule, est-ce que ça pourrait se transmettre entre des générations là, d'organismes? Alors pour les humains, mais aussi par exemple
pour les
abeilles.
C'est ça qu'on parle de mémoire cellulaire, voilà. C'est-à-dire que est-ce que ça se transmet comme les gènes?
Tout à fait. Et là, c'est une grande interrogation au niveau de la communauté scientifique. Un certain nombre de chercheurs essayent de dire que oui, il y a des mécanismes épigénétiques qui se transmettent de génération en génération. D'autres qui doutent un petit peu de ces phénomènes. Mais pour l'instant, je pense que c'est ce que dit Edith Hurd, c'est que faut arrêter un petit peu, faut pas trop fantasmer dessus. Déjà, l'épigénétique dépend de la génétique parce que finalement les enzymes, ces molécules qui vont permettre de fixer des marques épigénétiques, elles sont codées par l'ADN. Donc il y a une implication, il y a des boucles de rétroaction finalement entre la génétique et l'épigénétique. Donc les deux ne sont pas totalement décorrélés, au contraire. Et puis ensuite, on est loin d'avoir tout compris aussi. C'est ça ce que explique Edith Hurd au fond.
Et c'est ce que nous comprenons à la lecture de ce dossier épigénétique, les nouvelles dimensions du génome. Dossier plus que complet, justement, à lire dans la recherche de ce mois de juin, dont nous avons encore quelques exemplaires à vous faire gagner. Chers amis auditeurs, vous voulez tout, tout de suite, c'est Clarica qui le chante sur tous les toits et sur RFI.
À Bobigny, la lune en plein soleil, la semaine des quatre jeudis, y a de la joie au réveil. On veut rouler en ami 8, en fumant des Havanes menthol, chevaucher des météorites, sauter des avions en plein vol. Et l'amour en tête de gondole, et l'amour en tête de gondole.
Avec Clarica sur RFI et dans Science et Vie de ce mois de juin, Caroline Tour, vous annoncez la fin des zones blanches pour Internet.
Les zones blanches, ce sont ces grandes zones de la planète sur lesquelles en fait on capte pas Internet hein, pour des tas de raisons, les infrastructures sont pas là. Il y a plusieurs projets qui étaient dans les cartons, qui étaient en train de se développer. Et là, il y en a deux qui se lancent vraiment, de constellations de petits satellites, pas très chers, pas très haut dans le ciel non plus, qui seraient envoyés pour permettre localement d'avoir accès à Internet et aux services qui sont associés. On sait par exemple qu'il n'y a que 3% de la population de l'Afrique subsaharienne qui a accès à Internet. C'est même un taux qui chute à 1,1% en Érythrée. C'est l'un des pays les moins connectés. Et il y a 98% des foyers en République de Corée, par exemple, qui sont connectés, et ce pays-là, il est en tête du classement. Donc la grande idée,
ouais, ce serait de réduire les inégalités,
numériques. Après, ça ne résout pas tout. Il faut avoir accès à un ordinateur, savoir s'en servir.
Mais ces constellations de petits satellites pourraient apporter Internet
ou des
sur le continent africain, notamment.
Ou des satellites où il y a des méthodes avec des ballons stratosphériques, même une sorte de planeur, bref, des solutions technologiques pour en finir avec les zones blanches.
À lire dans Science et Vie de ce mois de juin, Philippe Hénarejeuse dans Ciel et Espace. On s'arrête sur une image qui a fait le tour du monde. Vous nous dévoilez les secrets de la fameuse photo d'un trou noir.
Oui, vous savez, c'est une histoire qu'on a suivie depuis le début et même depuis avant le début, puisque nous l'avions traitée avant que les astronomes de l'Event Horizon Telescope tentent cette photo. On est allé les voir pendant qu'ils faisaient la photo. Et là, notre journaliste David Fossé raconte comment cette prouesse a été possible. Parce que, bon, une fois qu'on a vu l'image, il est quand même intéressant de savoir comment elle a été prise. Il a fallu plusieurs radiotélescopes dispersés sur toute la planète qui ont observé simultanément. Comme s'ils n'en faisaient qu'un, mais en fait ils n'en faisaient pas qu'un, donc il fallait beaucoup de travail informatique derrière. On vous raconte pourquoi il y a deux cibles qui avaient été visées. Il y a le trou noir d'une galaxie qui s'appelle M87 qui est à 55 millions d'années-lumière, et il y a un trou noir beaucoup plus proche de notre galaxie, la Voie lactée, et on n'a eu qu'une image. Donc on vous dit pourquoi on n'a pas encore l'image de celle de la Voie lactée.
Notre trou noir.
Voilà, et puis aussi cet Event Horizon Telescope n'a que ces deux cibles pour l'instant à sa portée, et donc les astronomes envisagent aussi des évolutions pour le rendre plus précis et pour faire de nouveau une image peut-être encore plus précise de ce trou noir de M87. Dans le temps, on va le voir peut-être évoluer.
À suivre, Mathias Germain, dans la recherche, on reste là-haut dans le ciel, dans l'espace exactement, et vous vous êtes intéressé aux colères forcément magnétiques du Soleil. Comment prévoir les éruptions solaires, c'est
exactement.
Ça
exactement, là aussi ça donne d'ailleurs des photos assez extraordinaires d'éruptions solaires. C'est un article signé d'un chercheur qui s'appelle Tahar Amari, qui en fait cherche à modéliser ces éruptions solaires. Alors à quoi ça peut servir? Ça peut servir à essayer de les prédire, parce que ces éruptions solaires peuvent avoir des conséquences chez nous, sur la Terre. Ça peut entraîner, on sait, donc un certain nombre de perturbations, notamment dans les télécommunications, l'électricité. Donc, comprendre ces phénomènes,
c'est comprendre et de prévoir les colères du Soleil. Allez, on termine avec vous, Mathieu Novak, dans Science et Avenir. Vous me donnez des nouvelles de rhinocéros africains qui ont disparu et qu'on pourrait faire revivre.
C'est un grand espoir. Je vous donne aujourd'hui un rendez-vous pour dans bientôt, parce que nous sommes allés en Californie visiter ce qui s'appelle le Safari Park, où on essaie de sauver le rhinocéros blanc du nord qui habitait au nord de la RDC, qui a disparu. Le dernier mâle a disparu en 2018. Mais on a congelé des cellules. Et ces cellules, on va essayer dans le futur de les transformer en cellules germinales et d'inséminer un autre type de rhinocéros, le rhinocéros blanc, mais du sud, qui lui existe toujours. Donc pour le moment, on essaie de faire des inséminations juste pour valider ça. Et d'ici quelques années, rendez-vous dans 10-15 ans, on espère.
Pour reparler de ce fameux rhinocéros. Merci infiniment, Mathieu Novak. Merci, Mathias Germain. Merci, Philippe Hénarejeuse. Merci, Caroline Tourbe. On se retrouve le mois prochain autour de vos magazines respectifs, Science et Avenir, La Recherche, Ciel et Espace et Science et Vie. Nous avons encore quelques exemplaires à vous faire gagner, à mes auditeurs. Ils sont pour vous si vous nous les demandez par mail ou sur notre page Facebook en précisant bien votre adresse postale. À bon entendeur. Autour de la question, c'est fini pour aujourd'hui. N'hésitez pas à nous réécouter, à nous podcaster à volonté sur le site de RFI et sur les applications comme RFI Pure Radio. Je vous donne rendez-vous lundi prochain pour partager ensemble de nouvelles interrogations avec Hugo Violas à la réalisation et Caroline Fillette en coulisses. D'ici là, surtout portez-vous bien. Restez curieux, gardez l'esprit libre et ouvert à tous les possibles. Sur RFI, dans un peu plus d'une minute, ce sera l'heure d'un nouveau journal.